Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon jeudi également, Marianne Paquette derrière le micro qui est là pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Si l'obésité est due à un ensemble de facteurs et d'entrée de jeu, on pense aux habitudes de vie, à l'état de santé général, global, au contexte familial également. Il y a des chercheuses de l'Université de Montréal et du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine qui ont établi récemment une corrélation entre l'insécurité à l'école et l'obésité juvénile. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En deuxième partie d'émission, Caroline Fitzpatrick, elle qui est co-auteure de l'étude et chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine sera là pour nous en parler davantage. Et puis, vous rappelez, peut-être raviver votre mémoire ou peut-être que vous êtes en train de vivre cette période de la vie qui est jeune adulte, là, quand on est tout jeune adulte et qu'on entre dans la vie active, qui est une période extrêmement effervescente. La vie scolaire peut être stimulante, on a envie d'embrasser de nouveaux projets, on a beaucoup d'énergie aussi pour le faire, la vie sociale est bien remplie et c'est aussi ce moment où on explore l'autonomie parce qu'on se détache tranquillement du cocon familial. Évidemment, pour des jeunes qui vivent avec une déficience physique, le quotidien est différent, parsemé d'obstacles différents, de défis particuliers aussi. Depuis 2012, le Centre de réadaptation Lucie Bruneau a mis de l'avant une approche qui est extrêmement novatrice. Ça s'intitule le cirque social et ça vise à accroître la participation sociale des personnes qui vivent avec une limitation physique. J'en parle davantage à l'instant avec Frédéric Loisel, lui qui est ergothérapeute. Frédéric Loisel, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes là depuis le début, vous, au sein du cercle social depuis 2009, depuis les premiers balbutiements. Je le disais tout à l'heure, c'est une approche en réadaptation plutôt originale qui se distingue sur plusieurs aspects. Pourquoi c'est important, Frédéric, d'innover en matière de réadaptation, notamment lorsque l'on s'adresse à une jeune clientèle?
Bien, c'est fort intéressant parce que si je vous ramène un petit peu 25 ans en arrière, la science a fait énormément de progrès depuis et je vous dirais que nous sommes à accueillir depuis quelques années à peine, depuis peut-être un an ou deux, les premières cohortes, c'est-à-dire les premiers groupes de jeunes en grande partie sauvés par la science, nos jeunes bébés prématurés qui jusqu'à ce moment-là n'avaient pas une espérance de vie aussi grande ou aussi normale, je pourrais dire. Alors c'était un défi à la fois pour nous, en réadaptation adulte, puisque Lucie Bruneau est un centre de réadaptation en déficience physique adulte, pour accueillir ces jeunes-là qui font pour la plupart de la réadaptation depuis leur tendre enfance. Et comme n'importe quel jeune, comme vous le disiez, en transition, on a le goût de mort dans des projets, et en passant, ils ont exactement les mêmes goûts et priorités que tous les autres jeunes, c'est-à-dire avoir un job, avoir une blonde, avoir un appartement, sortir, avoir une gang d'amis. Mais comment faire pour les accueillir autrement, pour les accueillir d'une façon pour qu'ils puissent eux-mêmes s'autonomiser, hein, s'autodéterminer, si je peux dire un terme un peu plus, là, un concept plus scientifique, pour qu'ils eux-mêmes prennent en main leur objectif d'adaptation et travaillent sur leur autonomie dans tous les jours pour être capables justement de prendre leur place dans la société. Mm-hmm. Et c'est comme ça que le cirque... Écoutez, je me suis pratiquement traité de fou, moi, en 2008. On me disait, tu veux faire du freak show avec ces jeunes-là, penser faire du cirque. Mais je pense qu'ils n'avaient pas tellement bien compris ces certains directeurs-là à ce moment-là.
Mais et c'est intéressant ce que vous dites, Frédéric Loisel, parce que ces jeunes-là font de la réadaptation depuis qu'ils sont tout petits. Est-ce que le cirque social est une façon de mieux adhérer aux soins, à la réadaptation, au suivi. Pour eux, c'est une source de motivation de poursuivre ces traitements-là?
Bien, et regardez, c'était l'idée, c'était instinctif. Moi, je suis un vieil ergothérapeute, j'ai été papa et j'ai un côté peut-être artistique assez prononcé. Mais à ce moment-là, quand j'étais chargé de projet, on parle 2008-2009, à la direction ici, on m'avait mandaté d'un peu de m'intéresser davantage à la TEVA, qui est la transition école-vie active. Mm-hmm. Et soit dit en passant, c'est un projet que trois ministères ministères, nous avions travaillé ensemble, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, de l'Emploi et de la Santé, pour justement mieux accueillir ou offrir, si vous voulez, un corridor de services mieux organisé pour assurer cette transition. Vous savez, quand vous le disiez, quand l'école se termine, quand les dossiers pédiatriques se terminent et tout est transféré chez les milieux adultes, on pense que tous les médecins sont changés, les services et anciennement sous un même toit, on pense à Sainte-Justine, Marie-Enfant, deviennent un peu éparpillés partout dans la communauté. L'image qu'on voit à travers le monde, c'est la chute dans le ravin. Autant pour les familles, les parents, qui, vous le disiez encore une fois, très belle introduction, soit dit en passant, Marianne, hein, vous parlez d'un cocon. Je ne vais pas parler de surprotection, parce qu'on surprotège tous nos enfants, mais peut-être si notre enfant a passé à travers une enfance difficile, on les coucoune un peu plus, on les protège un peu plus. Alors, ça vient un petit peu de ça. Puis, chose certaine, mon instinct, ma piste, mon flair était bon, mais rapidement, c'était appuyé par un recensement des écrits, hein, comme on doit se faire en recherche pour se coller davantage à ce que les experts puissent nous dire. Et ce qu'on nous disait à l'époque et encore plus aujourd'hui, et encore plus pour cette population en transition, c'est peut-être de cesser de travailler ce qui ne fonctionne pas bien. Cesser de travailler la mémoire qui fait défaillance, le bras qui bouge peut-être moins bien. Mais amenons ces jeunes à vivre des expériences réelles, concrètes, significatives, qui font du sens. Et d'une expérience à l'autre, par la force de groupe aussi, de mettre ces jeunes-là ensemble, ils partagent leurs défis, leurs solutions, leurs stratégies gagnantes. Et au lieu d'exercer cette réadaptation ou cette intervention-là en institution, soit à l'école ou ici dans nos centres de réadaptation, bien, le faire dans des milieux concrets, réels, dans la communauté. Et c'est comme ça que le Cirque social, finalement, quand j'ai cogné à la porte du Cirque du Soleil à l'époque, j'ai dit, bien, votre approche m'intéresse drôlement, puisque les différents éléments que je viens de nommer concordent avec les recommandations de nos experts pour cette population-là. Et là, je parle bien sûr de la déficience physique, mais ça s'adresse autant pour les jeunes qui vivent avec un problème de santé mentale, un problème de déficience intellectuelle ou du trouble envahissement du développement. Je pense à l'autisme, par exemple.
Tout à l'heure, Frédéric, vous parliez de freak show. Au départ, vos patrons avaient cette crainte-là. Bien sûr, le cercle social a évolué. Maintenant, comment il s'articule? J'ai envie de le faire vivre aux gens qui nous écoutent. Ça ressemble à quoi les ateliers, les objectifs que vous visez avec ces jeunes-là?
Parfait. Marianne, si vous me permettez, je reculais un petit peu en disant le lien avec le freak show. C'est certain que moi, je croyais à mon affaire.
Et ben
ce
oui.
qui m'a amené, c'était mon côté rebelle artiste un peu à 44 ans et demi, de retourner sur les bancs d'école. Il fallait faire une maîtrise en recherche dans le nouveau programme Sciences de réadaptation à l'Université de Montréal pour justement appuyer ma démarche d'exploration et pour documenter les bienfaits pour arriver à des résultats très, très concluants. Alors, je ramène à ça. Donc, l'approche, le cirque social, en fait, c'est, vous savez, dès qu'on pense cirque, on pense au cirque contemporain. Le cirque, le nouveau cirque, nouveau genre, on pense au Cirque du Soleil, aux sept doigts de la main.
Éloise,
et voilà, puis un peu partout à travers le monde maintenant. Mais on pense tout de suite à la haute performance. On pense au cirque professionnel, au cirque là, de show business, hein, vous savez. Mais le cirque social, c'est tout à fait autre chose. Le spectacle, dans l'approche pédagogique, comme le veut celle du Cirque du Soleil, qui fête ses 20 ans d'ailleurs cette année, et qui a été développée initialement principalement pour les jeunes à risque, les jeunes dans la rue, dans les favelas au Brésil, les enfants de la guerre, les enfants qui sont à risque de criminalité, de toxicomanie ou d'itinérance. Bref, alors le voyage qui mène vers le spectacle, comme je disais, le spectacle est important dans l'approche pédagogique, mais ce n'est pas l'objectif, le but premier. Hein, c'est des 150 heures qui se déroulent en gang dans la communauté avec à la fois en tandem des artistes en cirque de différentes disciplines et des intervenants sociaux. Pour nous, c'était les intervenants de réadaptation. Alors, 150 heures d'intervention directe dans des situations concrètes de la vie menées par, bien sûr, le contexte fascinant, inclusif du cirque, parce que je me permets une petite parenthèse, le cirque, comparativement peut-être à d'autres formes d'art, célèbre la différence. Hein, imaginez, on se rappelle un peu, si on tourne en arrière, le géant de Beaupré, la femme à barbe, même encore aujourd'hui, les corps atypiques, élastiques et, comment je pourrais dire, bioniques des artistes du Cirque du Soleil, ce ne sont pas des corps normaux, entre guillemets. Alors déjà, le cirque, par ce côté fascinant et un peu mystérieux et vraiment Je voudrais être spécifique au cirque, bien, on accueille les corps différents, on célèbre ça. Et de quelle façon? Bien, à travers différentes explorations artistiques. Je pense à l'idée de quelqu'un, imaginez qu'il y a l'hémicorps, la moitié de son corps qui ne fonctionne pas, qui est un peu paralysé. On peut s'imaginer une boîterie assez particulière et marquée de cet individu-là. Mais si ensemble, on se regroupe 12 personnes et on copie exactement sur un rythme endiablé ou très rythmé, très marqué, cette démarche, cette claudication, ce mouvement de corps qui est atypique, ben, vous allez voir, même si on est à la radio, comme moi, que ça peut créer un tableau drôlement efficace et drôlement esthétiquement intéressant. Alors, la différence pour les artistes, comparativement à moi, comme ergothérapeute ou mes confrères, collègues en réadaptation, c'est que lorsqu'on regarde ce corps atypique, on le voit, nous, avec tout de suite des limitations. Mais le fait de travailler avec des artistes dans le cadre du cirque social, pour eux, c'est une beauté, c'est une source d'inspiration.
Ça devient une force à quelque part.
Alors voilà, au lieu de travailler, c'est ce que les experts nous disaient, cessez de travailler ce qui ne va pas. Travailler ce qui va bien ensemble dans la communauté. Alors, ensemble, on travaille sur nos forces. Mais en même temps, le cirque social, comme le veut le volet citoyen du Cirque du Soleil, depuis 20 ans, bon, je n'irai pas dans les détails de leur argent, bon, on sait qu'ils font de l'argent, mais la liberté avait cette belle idée. Et avec les profits, il y avait un certain pourcentage qui était investi dans cette fondation qui est le Cirque citoyen. Alors, à travers ça, on était capable vraiment de mettre de l'avant une forme d'art, un programme qui s'appelle le Cirque social, où en tandem, comme je disais, artistes et intervenants sociaux, maintenant de la réadaptation, puisqu'on l'a exploré, documenté scientifiquement, et on le fait maintenant comme nouveau service de réadaptation Lucie Bruno. Alors, de développer à travers des valeurs sociétales. Quand je parle de valeurs sociétales, c'est l'inclusion, le respect, la collaboration, la coopération. Bref, s'il y avait tous ces éléments-là dans tout ce que l'on fait, il n'y aurait pas de guerre sur la Terre, vous comprendrez. Alors, à travers cette expérience de vie réelle, concrète, en gang, parce que pour nos jeunes, souvent, ils n'ont jamais vécu aucune expérience de gang ou réelle. Ils ont toujours fait tout avec papa et maman, ou la fratrie. Alors là, on les amène les mercredis matins, à 8 heures, comme si nous allions travailler. Nos partenaires écoles, Commission scolaire de Montréal, Pointe-de-l'Île, libèrent les jeunes du programme scolaire pour qu'ils se rendent à la caserne 1830, qui est un lieu dédié pour les arts du cirque, géré par un autre partenaire, le CCSE Maisonneuve, dans Schlager-Maisonneuve, au métro Joliette. C'est un lieu vraiment où les artistes amateurs, sérieux et professionnels s'entraînent dans toutes les formes d'art là, de cirque. Alors, les mercredis matins, ça se passe là, on travaille les habiletés de travailleurs, être à l'heure ponctuel, être douché, travailler l'autonomie pour les transports.
Rendre seul aussi, je disais. Ça fait partie aussi de l'autonomie.
Et voilà. Et l'autre atelier, c'est les vendredis soirs. Pourquoi? Parce qu'à 18-25 ans, Marianne, vous saurez sûrement, vous allez opiner du bonnet, j'en suis certain, mais on ne passe pas la soirée avec papa puis maman assis sur le divan à regarder je ne sais pas quoi la télé. À 18-25 ans, normalement, on est avec des amis et on s'amuse. Oui. Donc, c'est ça aussi, ça fait partie de la nouveauté. Moi, comme ergothérapeute clinicien, je laisse mon 9 à 5 ou mon 8 à 4 et je travaille jusqu'à 11 heures les vendredis soirs dans la communauté pour justement offrir un contexte réel, concret, significatif, stimulant pour ces jeunes-là.
Frédéric, le week-end dernier, c'était votre spectacle, en fait, vos spectacles, Bipèdes à roulettes.
Oui.
Parce que vous me disiez, on n'est pas axé sur la performance avec le cirque social, mais quand même, au bout du compte, il y a un spectacle devant public. Est-ce que cette performance, ou du moins cette prestation devant public, fait partie elle-même de la réadaptation?
Bien, écoutez, c'est un élément très important dans le processus ou dans l'expérience vécue à travers le programme éducationnel là, pédagogique qu'on appelle du Cirque du Soleil, le Cirque social du Cirque du Soleil. Le spectacle s'inclut et comme c'est une pierre angulaire importante. Ça conclut les 150 heures d'intervention où on a développé plein d'habilités au niveau de notre participation sociale. Hein. Je vais en nommer quelques-uns. L'autonomie au déplacement, gérer l'itinéraire, la réservation de transport adapté pour mes jeunes, entre autres, ou des jeunes qui ont des problèmes cognitif pour s'orienter, s'organiser. Alors, il y a les déplacements, on travaille beaucoup la communication sur différentes formes d'exprimer ses besoins, à travailler, à exprimer aussi comment faire face à l'étranger pour demander de l'assistance, par exemple. Après ça, on travaille tout ce qui est relations interpersonnelles parce qu'encore jusqu'alors, il n'y avait pas vécu de relations significatives. Il faut savoir les initier, les maintenir et les entretenir, ces relations interpersonnelles. Il faut savoir aussi être dans respecter les contextes sociaux des différentes relations interpersonnelles. professionnelle et tout ça, c'est des habiletés, des compétences, des prérequis pour devenir un adulte, que ce soit pour l'emploi ou pour simplement s'intégrer dans la communauté. Il y a aussi tout le volet responsabilité vers soi, responsabilité de soi, responsabilité civile envers l'autre. Et encore là, c'est des valeurs et des compétences qu'on doit développer pour être adulte. Alors, à travers les 150 heures, ensemble, le spectacle devient le projet commun, où tous allons briller ensemble. Vos faiblesses seront compensées par mes forces et vice-versa. Et ensemble, un groupe de 12 jeunes, accompagnés, comme je disais, par 3 artistes et 2 intervenants sociaux, à travers l'année, présente ce spectacle. Et comme le veut l'approche pédagogique du Cirque du Soleil, et c'est ce qu'ils ont démontré depuis 20 ans, mais on a eu la chance de le documenter dans mon étude, entre autres, et de plus en plus, croyez-moi, d'ici quelques années, à travers la planète, on est un regroupement interdisciplinaire de chercheurs qui allons étudier et mettre sous la loupe toutes les retombées possibles du cirque social, et ce, avec différentes populations. Alors, on revient au spectacle. Moment magique, parce que le parent ne sait pas ce qui se passe pendant les 150 heures. Tout ce qu'il voit, c'est qu'un jeune, soudainement, il se lave, il s'autonomise, il gère.
Il se lève le matin.
Il se lève le matin, il se couche tard, il se couche tôt la veille. Alors, il voit la transformation, il est témoin. Donc, sa qualité d'encadrement est optimisée pour le parent, parce qu'il n'y a plus à répéter, il n'y a plus à faire la chicane. Le jeune s'autonomise, et devient efficace. On appelle ça l'auto-efficacité. Et c'est un élément clé de la transformation intrinsèque, si vous voulez, de l'individu qui l'amène à être beaucoup plus autonome dans son quotidien. Arrive le soir du spectacle, il y a cette transcendance. Le jeune ne pensait jamais, avec sa différence, ses limites, un jour vivre une expérience de groupe sur scène devant 300-400 personnes. Le parent est en pleurs parce qu'il était témoin de cette transformation, mais là, il voit la perception du parent face à son enfant change. Ce n'est plus le jeune protégé, mais au contraire, un jeune adulte qui veut s'envoler. Et aussi, la communauté, monsieur, madame, tout le monde, le citoyen, soudainement, flingue dans les dents ou dans les yeux, n'a plus le même regard. Et c'est des témoignages qui ressortent quand les gens pleurent. Ils sont touchés. Puis on n'est pas dans la performance, comme on le disait plus tôt, mais l'intention artistique, le geste, la fierté de ces jeunes, la collaboration, l'entraide que l'on voit pendant ce 8 à 12 minutes-là sur scène, nous scie les jambes, nous amène les larmes aux yeux et nous touche droit au cœur. Les gens me disent et nous disent, premièrement, il y a des stand-up, on se fait applaudir, mais après ça, ils nous disent, mais monsieur, moi ce soir, je venais me divertir, j'ai été diverti, mais vous avez changé ma vision. Parce que vous savez, de voir des jeunes, c'était ce phénomène de transcendance, on le vit à travers eux. De quoi j'aime plaindre quand je vois quelqu'un aussi peut-être limité faire autant de grandes choses tous ensemble? Mon regard change à la fois par rapport à ma perception que j'ai des gens qui sont différents, mais par rapport à ma propre vie. Et ça, c'était vraiment un objectif important dans l'approche pédagogique parce que, vous savez, initialement, comme je le disais plus tôt en entrevue, l'approche était développée pour les jeunes de la rue. Les jeunes marginalisés, que l'on voit souvent avec un regard un peu hautain ou de discrimination, ou ostracisant, qui dit « mon Dieu, ce sont des bons à rien ». Et soudainement, sur la place publique, ils s'agitent, ils s'activent, ils nous touchent droit au cœur, et soudainement, leur différence, leur couleur, nous amène à les voir autrement. C'est ce qui se passe aussi en déficience physique. Et cette année, Marianne, en plus, nous avions 4 jeunes présentant des troubles du langage, donc des non-oralistes, des jeunes sourds, et des jeunes avec des problèmes de dysphasie. Alors, on a agrandi, si vous voulez, notre cercle pour accueillir de nouvelles populations de jeunes.
Oui, parce qu'il y a un transfert de connaissances qui se fait avec le cercle social, voilà.
Et voilà. Alors, c'était au début une exploration, comme je l'ai dit, en 2011-2012. L'étude, on a exploré, documenté. Les résultats étaient tellement préliminaires, étaient tellement probants et factuels et concrets. Alors déjà là, Lucie Bruno, merci à son innovation et son audace de nous supporter dans nos projets un peu fous parfois. Mais c'est comme ça que finalement, j'ai été soutenu dans ma démarche scientifique. On a pu aller se coller aux données probantes des experts et nos résultats arrivent exactement là où nous devrions aller. Et comme on le disait, nous sommes en transfert de connaissances. Je dépose là sous forme d'article mon mémoire d'ici l'été et ensuite de ça, tout de suite, j'embarque sur un guide d'implantation pour que le cirque social devienne, plus qu'au Québec et plus qu'à Montréal du moins, une nouvelle façon de faire de la réadaptation avec ces jeunes en transition et ça, peu importe leur problème ou diagnostic.
Frédéric Loisel, merci au Centre de réadaptation, Lucie Bruno, d'avoir bien sûr embarqué dans votre folie, mais merci à vous d'y avoir cru au départ. Vous êtes ergothérapeute, je le rappelle, et initiateur du cirque social. Merci beaucoup, vous êtes un ergothérapeute hors du commun, Frédéric Loisel, et on suivra bien sûr sur tout, en fait, tous les prochains pas du cercle social.
Un gros merci à vous, puis faisons des petits.
Certainement. Au revoir, Frédéric.
Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Caroline Fitzpatrick, bonjour, merci d'être là.
Merci pour l'invitation.
Vous êtes co-auteur de cette étude qui crée une corrélation entre l'insécurité à l'école et l'obésité juvénile avec d'autres chercheuses qui sont du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Vous êtes, vous, affiliée à l'Université Concordia. Tout d'abord, je m'intéressais à l'insécurité à l'école. Qu'est-ce que ça signifie?
En fait, l'insécurité, ça représente le sentiment de crainte ou de peur que les enfants peuvent ressentir dans leur environnement scolaire.
Est-ce que c'est lié à l'intimidation?
Oui, bien sûr, l'intimidation peut emmener chez les enfants un sentiment d'insécurité, mais c'est pas nécessaire de vivre de l'intimidation pour sentir de l'insécurité à l'école. Donc, des enfants qui peuvent ressentir de l'insécurité à l'école en isolation nécessairement faire l'expérience d'interaction négative avec leur père.
Mm-hmm. Ça peut être une interaction plus négative, peut-être avec l'enseignant ou juste parce qu'ils vivent un certain stress lié à la performance, par exemple?
Ça pourrait être lié à la performance académique. Ça pourrait être relié également au quartier de l'école, comment les enfants se sentent dans un quartier, aux apparences physiques de l'école. Et des fois aussi, le sentiment d'insécurité à l'école peut être retracé au sentiment d'insécurité et de peur à la maison. Donc, souvent, les enfants qui vivent cette insécurité-là à la maison ou qui grandissent dans des quartiers peut-être plus dangereux vont amener ce sentiment-là à l'école également.
Mmh. Bon, on le sait, l'obésité, ce qui mène à l'obésité, c'est lié à plein de facteurs assez complexes. Je le disais tout à l'heure, habitudes de vie, contexte familial, l'état de santé global. Avec vos collègues, vous êtes arrivés à cette conclusion que ça peut être lié au contexte socio-économique, donc pauvreté, et également à l'insécurité à l'école. Comment vous êtes arrivés à ces résultats-là?
En fait, nous autres, on était très intéressés à mieux comprendre comment les facteurs environnementaux pourraient fonctionner ensemble pour expliquer un peu les inégalités sociaux envers la santé, spécifiquement envers l'obésité.
Mm-hmm.
Donc, ce qu'on voulait faire, c'est prendre en compte plusieurs aspects du contexte de ces jeunes-là. Donc, on a regardé des aspects familiaux, aussi des aspects scolaires et aussi des comportements liés à la santé.
Mm-hmm. Les habitudes de vie.
Les habitudes de vie aussi, également. Donc, ce qu'il faut... je pense qu'une bonne façon de voir ces résultats-là, c'est que les enfants passent beaucoup de leur temps à l'école. C'est un environnement qui est très présent. Donc, si l'enfant vit des sentiments de stress, d'anxiété à l'école, ça peut avoir une très grande influence sur la santé et aussi sur certains systèmes physiologiques qui peuvent mettre l'enfant à risque pour le développement de l'obésité.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez pu établir que cette insécurité à l'école ou l'anxiété vécue à l'école avait un impact aussi sur le fait que l'enfant bouge moins et plus devant un écran, peut-être plus isolé, moins sportif, donc?
Oui, on a trouvé que les enfants qui avaient plus de sentiments d'insécurité à l'école Également, les enfants qui étaient plus victimisés passaient plus de temps devant les écrans.
Mm-hmm.
Donc, qui est un facteur de risque pour le développement de l'obésité. On sait également dans d'autres études que le sentiment d'insécurité peut diminuer l'engagement envers l'école. Puis je pense que ça aussi, c'est un facteur qui est important parce que les enfants qui sont moins engagés envers leurs écoles sont ont moins tendance à participer dans les activités sportives, parascolaires et de loisirs actifs dans l'école. Donc, ça peut aussi être un facteur de risque à ce niveau-là.
Mm-hmm. Vous avez interrogé ou rencontré pour cette étude 1234 jeunes Québécois d'âge, je pense, début secondaire, c'est ça?
Exactement, vers la fin de la première année du secondaire, donc vers l'âge de 13 ans.
Et vous avez aussi parlé à leur enseignant, à ces jeunes-là?
Oui, donc on a parlé à leur enseignant pour demander aussi à l'enseignant comment l'enseignant percevait le climat de classe.
Mm-hmm.
La raison pour laquelle on a aussi interrogé les enseignants sur le climat de classe, c'est parce qu'on voulait vraiment pouvoir distinguer si c'était comment les sentiments propres des enfants influençaient leur adaptation scolaire et leur niveau de stress et de peur.
Ce qui est intéressant dans cette étude, Caroline, c'est que, bien sûr, vous avez pu établir cette corrélation entre insécurité à l'école et obésité, mais tout ça dans le but d'interroger comment on rehausse la sécurité des milieux scolaires, comment on fait finalement pour que nos jeunes soient bien. Vous en êtes arrivé à quelle conclusion? Comment on fait ça en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, pour que nos enfants se sentent bien dans un contexte scolaire?
Et je pense que, vraiment, au niveau parents, c'est un peu une pensée nouvelle que les parents, ils vont beaucoup se préoccuper pour le rendement académique de leurs enfants, leur relation avec les pères, mais c'est aussi un questionnement que les parents peuvent se poser, est-ce que mon enfant se sent en sécurité à la maison et à l'école?
Oui.
C'est quelque chose qui peut être évalué de façon routinière avec les enfants. Donc, avoir ces discussions-là peut, je pense, être une première étape importante. Ensuite, par rapport aux enseignants, on sait que les étudiants qui... ont des meilleurs liens avec les enseignants, qui ont moins de conflits avec eux, qui se sentent plus à l'aise de partager leurs sentiments et leurs pensées avec les enseignants, se sentent plus en sécurité à l'école.
Mm-hmm.
Ensuite de ça, un climat d'école qui encourage le respect mutuel peut aussi favoriser les sentiments de sécurité. Et dans un dernier contexte, le quartier de l'école, donc un plus grand verdissement des quartiers autour des écoles, un sentiment de cohésion avec la communauté. Si on invite la communauté entourant l'école à participer plus dans les activités scolaires, cela peut aussi augmenter les sentiments de sécurité des mm-hmm. enfants.
Et j'imagine que tout ça est un bon incitateur à encourager les écoles, les commissions scolaires à continuer leur campagne contre l'intimidation. Comment cette étude-là va se poursuivre de façon concrète? Est-ce que les enseignants, est-ce que c'était votre but de les inspirer en ce sens-là?
Oui, cette étude fait partie d'une étude longitudinale qui est encore en cours. Donc, on va pouvoir continuer le suivi de mm-hmm. ces étudiants-là.
Caroline Fitzpatrick, merci beaucoup. Vous êtes co-auteure de l'étude, chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine affilié à l'Université Concordia. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.